va lire aujourd'hui trois textes, mais avant, voilà, on a prié déjà, mais avant de lire ces textes, je voulais remercier Nathalie pour cette liturgie de l'Avent qui nous amène à entrer vraiment dans ce temps et à comprendre de quoi il s'agit avec cette attente. Et rappeler qu'en fait, le chemin d'Avent sert à préparer nos cœurs à l'événement exceptionnel qui arrive, à savoir la naissance du Sauveur et la venue de Dieu parmi nous. On a donc 4 semaines avant Noël, pendant lesquelles nous sommes invités à relire plusieurs textes, et notamment les nombreuses prophéties qui concernent la venue du Messie. Et en fait, cette relecture doit nous amener à la compréhension que celui qui naît dans une étable est bien celui qu'annonçaient les prophètes. Il faut arriver à faire le lien, en fait, entre cette naissance dans l'étable et ce serviteur de l'Éternel dont il est question. Il vient pour accomplir tout ce qui a été dit à son sujet. Il vient pour accomplir le plan de salut de Dieu pour l'humanité, plan mystérieux, mais prévu depuis longtemps. Il vient pour nous libérer, pour nous transformer. Il vient faire de nous les enfants du Père, héritiers avec le Fils de toutes les richesses de sa grâce. Alors je rappelle tout ça aussi parce que cet après-midi, comme je l'ai dit aux annonces, nous allons parler de cette fiche qui montre l'unité, la continuité, mais aussi les différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et c'est finalement aussi ce que nous montrent les textes que nous allons lire ce matin, puisque tous nous parlent de continuité, d'accomplissement, à la fois pour le passé, puisque la venue de Christ a eu lieu, mais aussi pour ce qui reste à venir. C'est-à-dire que ces textes vont nous tourner déjà vers la seconde venue du Christ et son retour en gloire. Alors, 3 lectures. Je pense qu'on commence par Ésaïe, mais je ne sais plus dans quel ordre je les ai données, c'est ça. Ésaïe 40, versets 1 à 11. C'est les textes du deuxième dimanche de l'Avent. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et l'on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur, l'Éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Marc, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. il prêchait. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Et la troisième lecture se trouve dans la deuxième épître de Pierre. Alors, on en a eu quelques bribes à la confession de foi. Chapitre 3, les versets 8 à 14. Un chapitre qui nous parle de l'avènement du Seigneur. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. L'évangile selon Marc, j'en dis juste un bref mot parce qu'on se concentrera plutôt sur les deux autres textes. Cet évangile a un caractère qui diffère de tous les autres à plusieurs égards. Il nous présente le Christ, lui, comme serviteur. Et en particulier, il insiste sur son service pour porter la parole. Christ est serviteur de la parole. C'est la raison pour laquelle l'histoire de sa naissance ne se trouve pas dans cet évangile. Marc commence son récit avec le début de la prédication de l'évangile. Et il intitule, vous l'avez entendu à la lecture, ce livre « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Comme ça, tout de suite, on est fixé. Il ne nous est pas permis d'oublier qui est ce parfait serviteur. Il est le Fils de Dieu. Et la mission du messager, de celui qui crie dans le désert, marque le commencement même de l'annonce de cette bonne nouvelle qu'apporte le Seigneur. Alors ce messager, c'est Jean le Baptiste. Jean est cette voix qui crie dans le désert et qui vient correspondre à ce que Dieu avait annoncé au travers du prophète Ésaïe. Dans le texte d'Ésaïe, donc, nous trouvons quatre cris, quatre voix pour quatre sections de texte. Une voix qui crie la consolation et l'annonce du retour. Une voix crie de préparer la venue de Dieu dans le désert. Une autre dit que seule la parole de Dieu est éternelle. Et enfin, la dernière crie la bonne nouvelle que la parole de Dieu demeurera désormais parmi son peuple, au milieu de son peuple. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient et nous sommes appelés à le laisser venir jusqu'à nous. La consolation d'abord, la double consolation. Consolez, consolez mon peuple. Dieu est comme un père qui prend son enfant sur les genoux et qui lui sèche ses larmes. Tant que les larmes obstruent leurs yeux, le peuple ne voit plus la lumière, alors que pourtant elle est là quand même. Et le peuple commencera de nouveau à espérer lorsqu'il sera consolé, lorsque ses larmes seront séchées. Ainsi en est-il du peuple d'Israël et cette année particulièrement, ce texte a une résonance particulière quand même. Ce peuple d'Israël qui souffre, qui est blessé, qui désespère mais qui n'est pas abandonné. Dieu est à son côté et veut le consoler. Ce texte nous rappelle que l'espérance n'est pas morte. À l'horizon se lève un jour nouveau. Et le terme qui est traduit par consolation est aussi traduit parfois par réhabilitation. Réhabiliter mon peuple. Ça signifie que celui-ci va retrouver sa place auprès de Dieu. Il est temps pour lui de retourner vers Dieu, de revenir à Dieu. C'est l'idée qui est défendue dans les trois textes qui nous parlent de repentance. C'est cela la repentance. Se reconnaître pécheur, se reconnaître loin de Dieu. crier à lui et revenir à lui. L'exil, le temps du désert, va prendre fin. Voilà ce qu'annonce ce texte. Et la réhabilitation qui s'annonce suppose de bousculer des habitudes, c'est le deuxième point, de transformer l'environnement. Et ça, ça ne se fait pas sans réaction et sans résistance, y compris chez nous. Le peuple doit préparer un chemin, doit dégager tous les obstacles qui sont en lui et autour de lui, tout ce qui empêche la venue du Seigneur. Alors parfois, on a encore assez facilement l'opportunité de dégager les obstacles qui sont autour. Ceux qui sont en nous, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Mais Dieu, dans ce texte, invite le peuple d'Israël, évidemment avant tout, mais je crois chacun de nous, à faire de la place, à prendre un peu de recul, à opérer le tri entre l'accessoire et l'essentiel. Parce que tant qu'on est dans la course, les yeux braqués sur ce qu'on a à faire, eh bien, on ne regarde pas quels sont les obstacles et qu'est-ce qui nous empêche finalement. Le désert est le symbole de ce que vivent les Israélites. La nuit spirituelle, l'absence de Dieu, l'égarement, la désespérance. Mais le désert est aussi le lieu de la purification et le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu où Dieu parle et guide, comme au temps de Moïse, quand le peuple est passé de l'esclavage à la liberté et à la terre promise. Le désert est alors dans ce cas un temps d'attente, voyez le rapport avec l'avant, un temps mis à part, un temps d'espérance, rappelant que le Seigneur vient et que sa gloire cachée va se révéler au cœur même du dénuement, dans le repentir et dans la conversion. C'est des mots parfois qu'on a voulu enlever, hein, repentir et conversion, ça ne fait pas plaisir. Mais en fait, on ne peut rien faire sans ça. On peut dire que Dieu est amour, évidemment, mais le chemin, toujours pour revenir à Dieu, est celui de la repentance, dans n'importe quel texte biblique qu'on prend. Alors oui, ça ne fait pas plaisir, mais c'est à l'humilité que Dieu nous appelle, cette humilité-là de reconnaître que nous avons encore du chemin à faire. Dans le désert, troisième point, la parole éternelle de Dieu, en paradoxe avec la faiblesse et la fragilité de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, nous dit ce cri-là ? La vie est comme l'herbe. Et effectivement, quand on regarde autour de nous, hein, on voit tellement de souffrance et de mal. Le chômage, la maladie, les divorces, les suicides, les injustices, les guerres, la pauvreté, la misère. La liste des plaintes est tellement plus longue, parfois, que les occasions de se réjouir. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais cette voix qui crie dans le désert, elle est notre force, justement. Parce que dans les situations les plus difficiles, la parole de Dieu tient toujours le cap. Et cette parole est une parole qui console et qui réconforte. Ces versets nous rappellent qu'on peut pleurer, on peut soupirer, on peut se plaindre. Dieu nous écoute et nous aime aussi dans ces moments de désert. Il ne s'agit pas d'une consolation bon marché. Allez, ça va passer. La consolation de Dieu est profonde et elle est rédemptrice. Son pardon renouvelle tout notre être et nous redonne la force et le courage de nous remettre en marche. Et c'est alors que la parole de Dieu redevient lumière sur notre chemin. Au cœur des cris suggérés par le prophète se trouve cette affirmation que la parole de Dieu est éternelle. Éternelle, ça veut dire ferme, pérenne, crédible. C'est tout ça qui est compris là-dedans. Pas juste qu'elle ne s'arrêtera jamais. Ça veut dire qu'elle est digne de confiance, elle est fiable. Et la bonne nouvelle de ce texte, c'est que Dieu va reprendre la parole. Le terrain à préparer en nous et autour de nous, et de faire place à cette parole de Dieu. Et je crois que si nous l'oublions parfois, c'est pourtant bien ce que nous fêtons à Noël. Puisque cet enfant qui naît, Jean le dit dès les premiers versets de son évangile, cet enfant est la parole, le Verbe de Dieu incarné. Cette parole va renaître dans le désert. Alors je vous fais une petite parenthèse d'hébreu et de grec, hein. C'est pas souvent, mais là ça me paraissait utile. En hébreu, désert, ça se dit midabar, c'est-à-dire sans parole. Le lieu du sans parole. Et en grec, c'est pareil, ça se dit erema, mais ça veut dire la même chose. Ésaïe est donc en train de nous dire que Dieu vient parler dans le sans parole. Vous voyez la profondeur. La parole de Dieu reprend du terrain partout où l'homme l'en a chassé, et rien ne va pouvoir faire obstacle à cette parole-là. Voilà la bonne nouvelle. Encore un peu d'hébreu, le terme employé pour énoncer les quatre cris qui rythment ce passage est le mot « kara », qui est le même terme utilisé dans la Genèse, Genèse 1. Cette parole, la prise de parole de Genèse 1 qui vient rompre le silence initial, qui vient justement dire quelque chose dans le silence absolu, eh bien c'est « kara ». Dieu appela « kara » la lumière jour et il appela « kara » les ténèbres nuit. C'est le même terme par lequel Dieu appelle Adam perdu dans le jardin. L'Éternel Dieu appela Kara, l'homme, et lui dit « Où es-tu ?» C'est une parole qui est créatrice, une parole qui appelle à l'existence, qui relève, qui rend la vie ou qui donne la vie. Vous voyez que ce n'est pas juste crier dans le désert. Ça va bien plus loin. C'est par ce même mot que l'homme accède à l'existence. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela, Kara, du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Voilà, je m'arrête là pour l'hébreu et le grec. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces quatre cris-là brisent le silence des déserts où il n'y a plus de parole qui fasse vivre. La parole de Dieu est une parole qui console, qui réhabilite, qui dégage les obstacles, une parole qui est fiable et éternelle. Et ce qui est annoncé dans ce temps de l'Avent, c'est la venue d'une telle parole. Une parole qui soit messianique, parce que l'homme a besoin de cette parole. Et il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous pour voir à quel point les gens ont besoin de cette parole. La parole est de retour, on pourrait dire. Dieu vient, va le crier sur les toits. Voilà un peu ce que nous dit Ésaïe. Oui, Dieu, en son Fils Jésus, vient accomplir ses promesses de paix et de grâce. L'auteur de la deuxième épître de Pierre prend la suite avec ça parce qu'il s'adresse à des chrétiens qui ont le sentiment justement que cette attente-là et que la venue du Christ est bien longue et que les promesses de Dieu concernant son royaume tardent à se réaliser. Et ça commence à peser, pour ne pas dire à râler. Et à se désespérer. Dans notre texte, ce texte de Pierre, il est question du temps. Et là, je crois aussi que c'est très actuel. Du temps dans lequel nous vivons, du temps dans lequel nous aspirons à vivre, c'est pas toujours le même d'ailleurs, mais aussi du temps qui passe, du temps qui s'écoule sans que de grands changements ne soient repérables. C'est aussi le temps de l'impatience, du doute et de la remise en question. Le temps de la foi aussi. Depuis la venue de Jésus sur terre, c'est-à-dire près d'un siècle avant la rédaction de cette lettre de Pierre, plusieurs générations de fidèles ont attendu le retour annoncé de Christ et l'installation promise du royaume. Après tant d'années d'attente, que fallait-il penser? Que convenait-il de croire encore? Et voyez, eux, c'est juste un siècle. Nous, c'est plus de 2000 ans. Comment fallait-il orienter sa vie? Voilà les questions qu'il se posait. Et c'est à cela que vient répondre Pierre, en tout cas cet auteur qui veut nous ramener à l'essentiel. Ainsi, s'il est exact que les choses ne se réalisent pas toujours selon nos espérances, il n'en demeure pas moins vrai que les promesses de Dieu traversent les générations et nourrissent la foi et l'engagement des croyants en toutes circonstances. L'auteur développe ce point autour de trois idées fortes que j'examine très très brièvement. La première, c'est que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. On le dit souvent sans trop savoir ce que ça veut dire d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre vision du temps n'est pas celle de Dieu. Notre mesure n'est pas sa mesure. Et en disant cela, l'auteur n'est pas en train de développer un concept nouveau, hein. Il se contente de rappeler ce que déjà le psalmiste avait mis en lumière au psaume 90, par exemple. Autant dire que le jour de Dieu est l'affaire de Dieu, en fait. Et qu'il faut peut-être que nous cessions de chercher à tout prix à savoir quand ça va être. C'est dans la foi en Dieu que nous pouvons véritablement nous préparer à ce jour de son retour. Et ça n'est pas en consultant les pronostics ou les signes, plus ou moins catastrophiques, même s'ils sont là, hein, ou en recherchant des assurances nouvelles qui sont souvent illusoires. On se prépare dans la foi et dans la lecture de la parole. Deuxième point, nous vivons dans un temps d'attente, un temps qu'il convient d'éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là, régulièrement entendue et mise en pratique, qui va nous transformer. Transformer notre esprit, ouvrir nos cœurs, réorienter nos regards sur ce qui nous entoure. Et ainsi, malgré tous les signes négatifs et alarmistes qui continuent à nous assaillir au quotidien, nous pouvons poursuivre notre route avec le Christ vers le royaume qui vient. C'est l'idée de ce chant qui dit « Vers Jésus, lève les yeux et les choses de la terre pâliront peu à peu ». Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser du monde. Mais il ne faudrait pas que la négativité de ce monde vienne tellement nous étouffer qu'on n'est plus capable de regarder à Jésus qui vient. Nous sommes invités au contraire à goûter dès à présent quelques signes de ce royaume avec d'autres fidèles. Troisième point, la venue du Seigneur sera une surprise. Le Seigneur viendra à l'improviste, comme un voleur dans la nuit, nous dit le texte, sans que nous puissions le voir venir et sans que nous connaissions d'avance le jour ou l'heure de sa venue. Ça devrait suffire à ce qu'on arrête de faire des pronostics. Mais alors, si les choses se présentent ainsi, comment pouvons-nous nous préparer et nous prémunir face à un tel événement? Et là aussi, l'auteur nous ouvre la voie. Avec nos frères et sœurs dans la foi du IIe siècle, nous pouvons confesser, et nous l'avons fait tout à l'heure, selon sa promesse, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà ce que nous attendons. Oui, mais pour l'instant, l'attente demeure. Et Pierre nous rappelle la raison de cette attente qui nous paraît longue, c'est que Dieu use de patience. Et il use de patience par grâce, par miséricorde, par bonté, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le Seigneur est patient, et il y a pourtant un moment où il exécutera le jugement annoncé. Pour cette raison, nous nous sentons pressés à inviter toute âme qui n'est pas assurée de son salut éternel. Et là, nous pensons spécialement et nous prions souvent pour eux, à plusieurs là, dans cette communauté, aux enfants de parents chrétiens qui ne sont plus parmi nous, qui ont entendu et qui font leur vie. Voilà, nous pensons spécialement à eux, mais pas qu'à eux. Chacun est invité à ne pas remettre à demain cette question de son salut. C'est aujourd'hui le jour favorable, nous dit l'Écriture, pour venir à la repentance, pour reconnaître devant Dieu son état de péché et pour accepter le salut qu'il offre à tout pécheur repentant, en vertu du sacrifice de Christ. Un salut qui est obtenu par grâce et sur le principe de la foi. Pas besoin d'abord d'être parfait, heureusement. Pas besoin de donner ou de vendre ou de faire des choses. Simplement reconnaître qu'on a besoin de lui. Tout cela doit parler sérieusement à chacun de ceux qui ne connaissent pas encore Christ comme leur salut. Et si c'était le cas de l'un d'entre nous ce matin, je voudrais le supplier d'y être attentif. Ce monde qui occupe tellement nos cœurs va disparaître. Voilà ce que Pierre dit. De toutes les choses qui nous captivent aujourd'hui et auxquelles nous nous attachons si facilement, il ne restera rien. Ceci s'adresse spécialement à nous croyants parce que cette perspective doit évidemment d'une part inciter les hommes inconvertis à se tourner vers Dieu et à se repentir, mais aussi elle doit amener les enfants de Dieu à vivre moralement séparés d'un monde qui va être détruit et jugé. Attendre ce jour et le hâter sont des expressions qui devraient éveiller en nous le sentiment de notre responsabilité. Parce que nous sommes responsables de manifester dans ce monde où règnent la violence et la corruption les caractères qui seront vus dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors c'est un peu l'idée des béatitudes, hein, qui ont été lues tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. En tout cas, frères et sœurs, ces textes ce matin nous redisent avec force que le Seigneur vient. Nous allons le voir comme l'étoile du matin, comme sauveur, comme maître, comme Seigneur, comme époux. Nous reviendrons pour régner avec lui comme roi. Puis le jour de Dieu apparaîtra. En attendant, le mal règne dans le monde et évidemment nous en souffrons. Mais nous sommes appelés à ne pas craindre et à ne pas perdre courage, en nous rappelant que la patience de notre Dieu est salut. Et cette pensée doit nous soutenir. Que Dieu nous renouvelle et nous fortifie dans l'espérance de son retour et dans notre témoignage, particulièrement en ce temps d'Avent. Alors voilà, un temps d'Avent de préparation, de conversion, qui nous pose la question aujourd'hui encore de est-ce que nous avons encore une attente ? Comment tracer ce chemin ? Quels sont les obstacles à la venue du Seigneur parmi nous ? Comment accueillons-nous cette venue ? Et les difficultés, je crois souvent, sont plutôt l'absence d'attente et le manque de soif. Évidemment qu'il y a plein d'obstacles et on pourrait les énumérer, mais on va manquer de temps. Mais l'obstacle majeur, je crois, et je voudrais finir là-dessus, c'est le trop-plein dans nos vies. Nous chassons l'angoisse en nous occupant et en saturant nos emplois du temps et ceux de nos enfants. Le trop-plein. On a l'impression de manquer de temps tout le temps. Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas vous, peut-être pas, mais... Et ce texte nous rappelle avec force comment voir le temps. Le prophète nous invite à faire le vide en nous, à ouvrir nos déserts à la venue du Seigneur, à faire un cheminement intérieur en enlevant un à un les obstacles qui sont à l'intérieur de nous. Et si on demande à l'Esprit de nous montrer les obstacles, il le fera. Ne nous arrêtons pas en disant « bon, moi je ne sais pas mes obstacles, alors je continue ». Non, 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 si on demande, il le montre. Enlever les obstacles et recevoir dans l'humilité et la repentance celui qui vient comme un enfant, un Dieu qui aime les hommes jusqu'à devenir l'un d'entre eux pour leur montrer le chemin, pour les guider, marcher à leur côté et partager leur vie. Alors écoutons cette voix qui crie dans le désert et ne la laissons pas s'étouffer par le brouhaha qui est autour de nous. Le Seigneur nous aime au point de se frayer la route jusqu'à nous. Et il dit dans le prophète Osée, un verset que j'aime beaucoup, « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » L'Église est aussi un lieu de parole. C'est pourquoi il est essentiel que la parole de grâce soit dite et soit criée à tous les échos, à ceux qui en ont besoin pour vivre. Peut-être n'avons-nous que des mots et parfois on se dit on a peu de moyens dans l'Église. Nous n'avons que des mots, mais ce sont des mots qui font vivre. Jean annonçait quelqu'un de plus puissant que lui et dont il n'était pas digne de délier la courroie des sandales. Alors nous sommes invités, nous aussi, à crier dans le désert de notre société, parfois même de nos églises, à appeler nos contemporains à se tourner vers le roi qui vient, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous renouvelle et nous fortifie dans l'espérance de son retour et aussi dans notre témoignage, particulièrement dans ce temps de l'Avent où les gens sont sensibles à ce que nous sommes en train de dire. Amen.